Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Construire, quelles sont les normes à respecter pour construire un hôtel? Vous savez, de plus en plus des maisons à l'étage sont à la mode dans les grands centres urbains de la RDC, particulièrement à Kinshasa. On voit des maisons à l'étage, on construit des appartements, des centres commerciaux ou soit des bureaux. Voilà, l'espace aérien est de plus en plus exploité. Cependant, l'inquiétude demeure du fait que ces booms des constructions ne respectent pas toujours les normes urbanistiques ou les normes de construction en vigueur pour de telles bâtisses. Alors, quelles sont ces normes à respecter? Et si ce n'est pas le cas, si ces normes ne sont pas respectées, quels sont les dangers? Deschon Gandou est architecte. Il est l'invité d'Okapi Service dans cette deuxième partie de l'émission. Deschon Gandou, bonjour.
Bonjour, Jody. Alors, vous retrouver.
Voilà, c'est également un plaisir de vous retrouver ce matin dans cette émission. Nous parlons des normes à respecter lorsqu'on construit en hauteur, lorsqu'on construit une maison en étage. Alors, dites-nous, quelles sont ces normes?
Ok, merci. Vous l'avez bien dit, nous sommes en train de vivre en quelque sorte un boom de construction.
Oui.
Et la tendance est de plus en plus en hauteur. Je voudrais avant toute chose qu'on se mette d'accord sur définir les concepts. Mmh. On parle de la construction, en termes simples, c'est une action de construire. Mais par extension, c'est édifier une structure. Donc vous comprenez par là qu'il y a un besoin, c'est rendre solide. Donc la construction, de par sa nature, poursuit certains objectifs. On construit pour que ça soit beau, on construit pour que ça dure, on construit pour que ça devienne une référence. Vous comprenez que dans ces triangles de la construction parfaite, l'accent est beaucoup plus mis sur la stabilité. Alors lorsque les normes ne sont pas respectées, lorsque certains éléments de construction ne sont pas scrupuleusement respectés, nous vivons des catastrophes, des bâtiments qui s'effondrent ou qui s'étassent. Cela est visible dans l'environnement immédiat. Donc ça et là, vous apprenez que non, il y a un bâtiment qui s'est effondré, il y a un bâtiment qui est en train de s'étasser plus jeune que prévu. Mmh. Et que dire des bâtiments qui connaissent des fissures à travers la ville et qui sont peut-être cachés, lesquelles fissures sont peut-être cachées par des belles façades ou des embellissements. Donc, c'est beaucoup de choses autour des non-respect des normes de construction.
Mais d'après vous, qu'est-ce qui explique cette tendance aujourd'hui à vouloir construire en hauteur, à construire des maisons en étage?
Bon, la tendance à construire des maisons en hauteur s'explique. Donc, nous sommes en train d'abord, de vivre une croissance démographique incontrôlée. Donc, c'est-à-dire que les nombres de gens qui vivent dans un environnement au mètre carré est plus important que prévu. Donc, la croissance est un peu accélérée et le besoin de partager la terre devient comme un combat, une lutte acharnée. C'est ainsi que, pour résoudre ces problèmes, on a tendance à la noter. Vous avez le pays, vous voyez le pays européen où il y a une grande population et que l'espace partagé entre cette grande population devient de plus en plus réduit. Mmh. On va en noter. Donc, ça se justifie. Donc, c'est pour répondre à un besoin, mais il faut alors savoir comment aller en noter et avec qui aller en noter.
C'est ça les grands problèmes. Alors, pour tout celui qui veut construire une maison en étage, quels sont les préalables?
Vous savez, pour toute construction, le préalable le plus fondamental, c'est la fondation. Qu'il s'agisse d'un studio, qu'il s'agisse d'une cathédrale, donc toute construction repose sur une fondation, parce que la fondation a pour rôle de prendre la charge de la bâtisse et de la transmettre de manière équitable dans le sol, qui est appelé à porter tous les poils. Mais maintenant, par extension, lorsqu'il s'agit d'une construction où il faut aller en hauteur, donc il y a certains éléments qui entrent en ligne de compte. Donc il y a la structure ou l'ossature. qu'il faudra respecter. C'est un des éléments les plus fondamentaux. À côté de la structure, vous savez, dans une maison, un étage, il y a le réseau d'alimentation en énergie, en eau. Donc, c'est pas comme une maison en plein pied où, lorsqu'on a construit, on vient, on perce un mur pour pouvoir faire l'adduction ou l'évacuation, quand peut-être par mégarde, on a oublié d'insérer ça. Mais pour une maison en étage, donc, au préalable, il faut savoir définir et canaliser tous les réseaux d'alimentation, là. Donc, les eaux usées, comment on va les évacuer, l'adduction, comment on verse, on va faire ça de manière à ce que ça ne puisse pas gêner ou plutôt fragiliser la structure. Ça ont des éléments les plus importants. Il y a aussi le mur. Vous savez, il y a des murs qui sont porteurs, il y a des murs qui sont, qu'on appelle en termes techniques, des murs de réfense. Une maison qui monte est beaucoup plus supportée par une structure. Alors, les murs doivent aussi avoir pour principe d'être construits sur des poutres, lesquelles poutres sont supportées par des colonnes. Mais qu'il s'agisse maintenant pour des besoins d'esthétique ou plutôt pour des besoins de fonctionnement, s'éloigner par exemple des poutres, où est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut placer les murs et avec quel type de matériaux, avec quelle quantité de blocs il faut le faire. Donc ça c'est un des éléments les plus importants encore, les murs porteurs, les murs de réfonds. À côté de ça, il faut encore aussi ajouter les systèmes de contrôle d'ambiance, si je peux ainsi l'appeler. C'est-à-dire, vous savez, dans une maison, il y a le chauffage, il y a la ventilation, il y a le conditionnement d'air, il y a l'éclairage, il y a l'isolation acoustique, l'isolation thermique, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle les systèmes de contrôle d'ambiance. Il faudra pas qu'on trouve un bâtiment où vous avez toute une batterie de splits, de condenseurs éparpillés, où vous avez l'isolation acoustique qui n'est pas respectée. Lorsqu'il y a un moindre bruit dehors, cela a des répercussions dans les bâtiments. Mais si c'est une salle de réunion, par exemple, si c'est un bureau, donc il n'y aura pas une ambiance de travail, une ambiance de calme dans cet environnement-là. Donc ça, c'est un des aspects aussi. Mais il y a aussi un aspect le plus important, c'est la circulation verticale. Par circulation verticale, je sous-entends l'escalier, que ce soit mécanique ou que ce soit un escalier en béton. Je sous-entends les ascenseurs, les montes-charges. Tout cela constitue une circulation qu'on appelle verticale. Parce que supposons qu'une maison qui a plus de 5-6 niveaux, vous ne pouvez pas faire passer les gens par une petite gaine de circulation, ça va étouffer, ça va constituer des flux difficiles à résoudre. Et aussi, en cas d'incendie, il faut savoir prévoir des escaliers de secours. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Il ne faut pas seulement se contenter d'une telle circulation verticale. Il faut penser que non, ces bâtiments, contre toute attente, peuvent connaître des problèmes, soit d'incendie, soit un problème de tout autre genre, des calamités qui arrivent, des séismes. Nous avions des cas en Haïti, nous avions des cas, la tour, le détour jumel, ça fait une dizaine d'années que nous avons assisté à ces raids des kamikazes. Alors tout ça, il y a eu des gens qui se sont échappés tout simplement parce qu'il y avait du suie de secours. Donc une circulation parallèle à côté de la circulation fondamentale qui constitue le noyau principal de l'ouvrage. Donc, je vais aller à beaucoup d'éléments, mais je pense que les plus fondamentaux sont ceux-là que je viens de citer.
Bien, on va y revenir. Déjà, il y a des petits-enfants qui s'amusent à côté là où vous êtes. Peut-être que vous pouvez leur demander de s'éteindre pendant un moment. Et il est temps d'accueillir nos invités, Albert Mwananga, qui nous appelle des Kananga, et Soki Sé de Kindu, dans la province du Maniema. Albert, bonjour.
Monsieur le journaliste, c'est Albert Mwananga qui vous appelle depuis Kananga.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais intervenir par rapport à ce sujet du jour, un sujet très important. Et j'aimerais donner ma préoccupation. Alors, j'aimerais demander à notre invité s'il y a l'ignorance des normes à respecter de la part des gens qui veulent faire construire leur maison. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je passe à la deuxième. Quel conseil que l'invité peut donner à celui qui connaît un endroit est construit, mais il y a quelque chose ou bien quelques normes qui peuvent lui empêcher de construire, mais il construit, soi-disant, l'homme, je suis responsable de tout ce qui s'est arrivé, alors qu'il se prend en charge de tout. Qu'est-ce que notre invité peut...
Oui, un exemple. Est-ce que vous avez un exemple, Albert?
Oui, par exemple, un monsieur qui connaît bien l'endroit, par exemple, l'endroit là où ça ne convient pas de construire. C'est-à-dire, il y avait des puits, mais il a bouché ces puits-là, après avoir bouché ces puits-là, il construit la maison. À un temps donné, la maison commence à se détruire. C'est ça que je voudrais demander à notre
juge. Oui, il y avait un puits d'eau. Quel genre de puits?
Non, le puits déjà creusé par l'eau de ruissellement, c'est ça, monsieur journaliste.
Ah, donc il y avait une érosion et le monsieur a construit...
Oui, il a bouché ce puits-là, maintenant il a construit la maison. À ce moment, je vous dis, donc c'est grave.
La maison a des fissures, hein. Vous êtes passé par là?
Oui, elle a des fissures. J'ai découvert ça, que la maison a des fissures. Vraiment, ce n'est pas vraiment possible.
Merci Albert Monanga. Sokissé, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, ce qui c'est.
Je suis au moins une petite préoccupation par rapport au thème du jour.
Oui.
Je voulais demander juste à l'invité, qu'est-ce qui fait que vous avez fait au moins des partenariats avec un jeu de, comme ça, pour vous construire peut-être une hôtel ou une maison, à moins d'un ou 12 niveaux ou 4 niveaux comme ça. Et puis, le partenaire que vous avez fait, quoi, l'ange de là, vous a garanti que la maison sera du moins 100 ans ou 50 ans pour que ça commence du moins à se démolir ou à avoir même des caricatures ou à avoir des préoccupations. Et maintenant, dans ce cas-là, une fois terminé la maison, là, mais la maison, ça arrive que ça ne puisse pas rester même 2 ans. Et la maison commence déjà à donner des mauvaises signes. Des caricatures, des signes qui font à ce que la maison puisse aller en faillite. Mmh. Voilà, qu'est-ce qui arrive à ce qu'on puisse être comme ça? Et là, qu'est-ce qu'il faut dire au moins à l'ange de là?
Merci. Deshonganou.
Oui, j'embrasse les deux questions, mais je voudrais commencer par la deuxième. L'auditeur veut parler de la responsabilité. C'est-à-dire qu'après 2 ans de construction, achevée, et la maison commence à manifester des malfaçons. Que faire? Donc, vous savez, le maître d'ouvrage, le maître de l'œuvre sont des partenaires de tout le temps ici. L'architecte qui, par nature, ou plutôt par essence, est le maître de l'œuvre, a une responsabilité qu'on appelle décennale. L'architecte a une responsabilité décennale sur l'ouvrage, donc une responsabilité directe des 10 ans, et il a une responsabilité morale des 100 ans. Donc, c'est-à-dire que dans le délai des 10 ans, lorsque vous avez construit, vous avez été le maître de l'œuvre d'une construction, et que pour des raisons avérées, des non-négligences, des négligences, d'absence de suivi des contrôles, l'architecte endosse la responsabilité. C'est-à-dire que vous pouvez l'amener devant les cours des tribunaux et il est appelé à payer des dommages d'intérêt.
Mais généralement, un bâtiment, disons une maison à l'étage, doit durer combien d'années? Ça doit durer 50 ans, 100 ans?
Les avancées technologiques actuelles, il y a un principe que j'ai évoqué tout à l'heure là au début. J'ai dit on construit pour que ça soit beau, que ça devienne une référence et que ça dure. Donc cette durabilité-là peut s'étendre minimum 50 ans, mais ça peut aller au-delà de plus de 100 ans. Donc plus la maison est solide, plus elle peut mettre longtemps. Alors j'ai parlé de la responsabilité directe et morale, et de la responsabilité décennale, directe des 10 ans, la responsabilité morale depuis des 100 ans. Donc au-delà des 10 ans, lorsque la maison commence à manifester des failles, ce n'est plus une responsabilité directe de l'architecte. Même si il y a eu des failles avérées, mais 10 ans quand même, on estime que non, les usagers peut-être en ont fait mauvais usage et que c'est pour cette raison-là que la maison peut-être commence à manifester des fissures. Mais l'architecte, malgré tout, endosse une responsabilité morale. Vous savez, la responsabilité morale tue, ronge plus que la responsabilité pénale. Hein. Donc, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, on vous pointe du doigt, on vous dit, voilà, l'architecte qui a construit la maison qui a fait ceci. L'architecte qui a construit la maison qui a fait cela. Donc, ça peut vous amener jusqu'au tombeau. On dit que l'architecte meurt avec ses erreurs et le médecin enterre ses erreurs. Donc, il faut éviter de mourir avec ses erreurs parce que toute la vie, même lorsque vous êtes dans le cercueil et que les gens viennent chercher, où se trouve le dépouille de l'architecte, ils n'ont pas de coordonnées, ils demandent, mais nous cherchons Tozo Luka, et pas architecte Mokwa Kofi Awa. On va dire, quel architecte, tel. Ah, oui, on a dit, quoi, Salaboué. Vous comprenez que vous mourrez avec le GRR.
Ça devient une référence.
Oui, donc c'est un conseil que je donne, je profite pour le donner à tous les confrères, qu'il faut, qu'il s'agisse d'un studio ou d'une cathédrale, il faut mettre tous les sérieux dans l'ouvrage qu'on est en train de conduire.
Alors, il y a Albert qui vous a posé la question de savoir, quelqu'un qui, il y a une érosion, il s'arrange pour boucher l'érosion et construire à cet endroit-là, et la maison commence déjà à présenter des malformations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Avant de répondre à Albert, nous allons accueillir Madame Mireille Tchela qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Madame.
Oui, bonjour Jody.
On vous écoute.
J'ai deux petites préoccupations à soumettre à l'invité. Mmh. La première, c'est est-ce qu'il peut établir la différence entre maçon, ingénieur, je sais pas, ingénieur en construction, et puis architecte, qui spécifie hein, le travail de chacun au moment de la construction. Ensuite, c'est que quelle est la démarche à suivre quand on veut construire? Bon, je donne un exemple palpable. Mm-hmm. Pour moi, j'ai une parcelle à Mongafula.
Oui.
Mais on se rend compte qu'on a demandé, on a fait faire un devis par un, je pense, architecte, hein? Oui, mais il a demandé, c'était exorbitant. Donc, pour faire quelque chose, à, je ne sais pas, l'inviter.
Lui, pour construire une maison en étage?
En étage, bon, je ne sais pas si c'est un étage ou bon, un rez-de-chaussée et les dessus, quoi. Mmh. Quelque chose comme ça.
Oui.
Il a demandé plus de 70 000 dollars. Pour une, sur la parcelle n'a que 12 mètres sur 15, pratiquement. Mais 70 000, vous vous rendez compte à quel point c'est cher? Alors, tous, c'est pourquoi nous tous, on se déverse carrément sur les maçons. Donc, il me fait un truc là et puis, là. Mais j'aimerais quand même avoir un conseil serein de la part de l'invité, parce que je trouve que c'est un monsieur qui s'y connaît.
Bien. Merci, Madame Mireille. Nous avons en ligne Monsieur Mangoyo qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, bon, moi, je voudrais poser une question à notre invité. Bon, alors, les gens qui construisent un peu partout, surtout ces derniers temps, cette tendance à vouloir construire des maisons en étage, quelle est la part de l'État? Pourquoi est-ce que l'État ne peut pas, en amont, intervenir lorsqu'il constate que l'endroit où on est en train de construire n'est pas approprié? Quels sont les rapports qui existent entre le maître de l'œuvre et l'État dans ce sens-là? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, il a dit que l'architecte a ce qu'on appelle la responsabilité morale, décennale, tout ça. Est-ce que vraiment il pense que tout architecte est conscient que aujourd'hui je porte la responsabilité décennale, la responsabilité morale d'un tel ouvrage, parce que le Congolais il va se dire, bah, écoutez, moi j'ai empoché mon argent, bon, je suis parti, qu'est-ce que j'ai à voir encore moralement avec ce qui arrive? Est-ce que vous pensez que vraiment, peut-être qu'un étranger, mais les Congolais vraiment ont cette culture-là de dire, écoutez, moralement, je souffre parce que je n'ai pas bien fait mon travail. Voilà les deux préoccupations que je voulais partager avec notre invité.
Merci, ingénieur Mangoyo. Alors, descendons à nous, on revient d'abord à Albert qui a parlé de quelqu'un qui construit, qui a bouché une érosion et qui construit une maison, et puis il y a des malformations juste après quelques temps. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Bon, Albert, j'ai des présomptions de réponses et je m'imagine la situation. Vous savez, il y a un principe, je le rappelle toujours sur les antennes, on peut construire partout, même dans l'eau. Mais il y a des préalables lorsqu'il s'agit d'un endroit tout particulier, comme le cas qu'Albert vient d'évoquer. Mmh. S'il y a eu une érosion et qu'on a remblayé, tout de suite on a placé un ouvrage, et c'est pour ça que les tassements naturels ne se soient pas faits correctement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les remblais, on a toujours conseillé de laisser cet endroit-là connaître 3 ans de saisons sèches et de saisons de pluie avant de pouvoir ériger une construction. Mais si l'ami a remblayé au mois de janvier et qu'en décembre, ou plutôt une année après, il s'est hasardé à construire, là, il faut se dire que c'est assez risque et péril parce que le sol, là, il est encore mouvant. Donc, le tassement naturel ne s'est pas encore effectué. Or, c'est le tassement le plus fondamental pour réaliser une construction. Ça, c'est une présomption, comme je le disais. Mmh. Mais en fait, avoir le problème des prêts, il y a aussi peut-être la fondation qui n'a pas été conséquente par rapport à la portance du sol.
Bien.
Comme je le disais, donc le fondement le plus majeur de toute construction, c'est la fondation.
C'est la fondation,
donc, si au départ,
ouais.
Cela a été biaisé, donc il faut s'attendre à des conséquences du genre.
Voilà. Et Madame Mireille de Kinshasa qui vous demande quelle est la différence entre maçon, ingénieur et architecte. Et puis elle donne son cas. Elle a intérêt à Mongafula. Elle veut construire une maison avec un seul niveau, mais avec un terrain de 12 mètres sur 15. Et l'architecte demande plus de 70 dollars. Alors il s'est dit bon mieux recourir à un maçon qui demande moins que ça.
Bon, en fait, je voudrais, en termes très simples, lui donner la différence qu'il y a entre le maçon, l'architecte et l'ingénieur. Donc, l'architecte, c'est la personne auprès de qui vous allez, vous dites, je vais construire une maison. Quelle est la démarche à faire? Quel est le plan adopté par rapport à la proposition que moi j'ai? Et comment vous pouvez m'aider pour que cela soit fonctionnel? C'est-à-dire qu'on y vive décemment, qu'on ne sente pas que non, on n'est pas dans une maison. Donc, qu'on vive agréablement.
Oui.
C'est-à-dire qu'il peut vous donner tous les aspects plastiques, là, la beauté, tout ce que vous voulez là, et vous donner les devis, la démarche à suivre, les étapes à parcourir pour que jusqu'à la plante de la pelouse, hein, il soit toujours votre conseil. Mais il ne fait pas cette démarche-là seul. Il s'entoure de beaucoup de choses. On l'appelle maître d'orchestre, mais seul, il ne peut rien faire. À un certain niveau, il s'est accompagné d'un ingénieur. C'est lui auprès de qui il va pour lui dire, mon frère, aide-moi à faire ces calculs. Voilà, je suis sur un sol qui est comme ceci, comme cela. Quelle est la fondation appropriée? Quelle est la structure à faire? Et quel type de charpente? Quel niveau d'angle pour notre pignon? Donc, il y a quelqu'un qui est spécialiste en calcul des structures, en résistance, en tout cela qui l'accompagne. Il y a les géomètres qui accompagne l'architecte pour lui donner les courbes des niveaux. C'est-à-dire que voilà, la pente est comme ceci, elle est comme cela. Il faut niveler comme ceci, il faut comme cela. Il y a l'expert plombier qui l'accompagne. Il y a en fait tous les différents corps de métier. Il y a les deux caractères. Ces gens-là sont tout autour de l'architecte.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a les topographes aussi interviennent dans ces opérations?
Oui, il intervient parce qu'il fait partie des constructeurs. Maintenant, les maçons, c'est qui? C'est un exécutant. C'est celui qui arrive le matin, on lui dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Enlève tout ce que tu as comme idée dans ta tête là, c'est ce que moi je te demande, parce que avant de construire, il y a eu au préalable des études appropriées qui ont pris des jours, des semaines, des mois, voire des années. Donc les gens ont eu à réfléchir là-dessus. Le maçon n'est qu'un exécutant. Lorsque les gens s'improvisent à aller donner toute la responsabilité au maçon, donc il faut alors s'attendre un jour au pire, parce que il n'a pas un planning qu'il peut vous donner. Il ne sait pas orchestrer les chevauchements des choses sur chantier et par conséquent, il ne sait pas vous faire toquer à la bonne porte.
Après,
l'exécutant, on lui dit faire ceci et il le fait.
Alors, le problème, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de maçons qui se sont transformés en architectes et ingénieurs. Dès que vous apportez de l'argent, il vous dit, moi, j'ai de l'expérience et puis je vais vous faire une belle construction.
Bon, en fait, c'est ça la difficulté, mais que faire devant l'absence de la loi? C'est-à-dire que c'est ça la difficulté. S'il y avait la loi qui était en vigueur, tous ces gens-là ne s'hasarderaient pas à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous sommes en train d'assister à l'absence de la loi et aussi nous sommes en train de voir que les gens, tant bien même intellectuels, pensent que non, il faut évoluer avec les maçons pour pouvoir faire un ouvrage.
Mais vous avez suivi la préoccupation de Mme Mireille. On lui demande plus de 70 000 $ pour construire une maison à un seul niveau. Elle trouve que c'est trop. Alors, il vaut mieux recourir à ceux-là qui vont demander moins.
Bon, les 70 000 $ qu'on a demandé, je ne pense pas que ce sont les honoraires que l'architecte demande. C'est un devis où il a fait incorporer les matériaux, toutes les démarches, les transports, tout ça. Mais au fait, c'est lié aussi à la demande de la cliente. Elle veut quel confort, quelle destination. Si vous avez demandé à votre architecte de carreler la maison avec des marbres qui viennent de l'Italie et qu'il a demandé les prix sur les nets et qu'on lui a communiqué, il incorpore ça dans le devis. Donc, il faut voir ce que vous avez demandé avant de juger le devis. Donc, je suis mal placé pour pouvoir donner une réponse là-dessus, parce que à chaque devis correspond un ouvrage et correspond les besoins de la personne. Lorsque vous lui avez demandé de construire une maison avec un bunker, ne soyez pas étonné devant un devis de 70 000 $. Donc il y a un rapport entre la demande, les matériaux et les devis.
Voilà. Ingénieur Mangoyo de Kinshasa, il dit quelle est la part de l'État dans tout ça, les rapports entre le maître d'œuvre et l'État, et il dit tout, est-ce que tout architecte est conscient de cette responsabilité morale dont vous faisiez allusion tout à l'heure?
Tout architecte n'est pas conscient, malheureusement, et la part de l'État, je l'ai toujours dit, l'État c'est une grande société devant prendre en charge les autres petites sociétés. Dans le schéma directeur de toutes les villes, de toutes les grandes agglomérations, on définit les îlots de construction. On dit par exemple, ici nous sommes à Lingwala, par rapport à telle étude effectuée, on ne peut pas construire une maison qui va au-delà de 3 niveaux. Et cela est placé. On dit par exemple, nous sommes à Mongafula, nous sommes à Kisenso, ici on ne construira jamais une maison qui dépasse 1 niveau, parce que nous voudrons refléter l'image d'une ville où il n'y a que des plains-pieds dans ces quartiers. Vous savez, l'urbanisme, c'est l'architecture à grande échelle. Lorsque vous montez plus haut, vous contemplez la ville à travers les ciels ou une forte altitude, vous devez aussi l'apprécier, apprécier sa beauté, les tracés des routes, les types de toitures, tout ça. Mais c'est l'État, à travers les services d'urbanisme, les plans directeurs, qui définit ces îlots de construction-là. Et il est là derrière pour faire suivre ce qu'il a tracé. Alors, lorsque vous arrivez à un endroit où on ne devra jamais construire une maison de 1+3, mais on le fait devant l'œil aveuglé de l'État, c'est là qu'il y a problème. Donc, l'État a une responsabilité, l'État a sa part, parce que tout est bien étudié, tout est bien calculé, tout est bien approfondi pour que ça soit respecté. Lorsqu'il y a absence de respect, lorsqu'il y a non-respect, donc quelque part, il y a la faille de la part de l'État.
Et on le voit dans certains quartiers, une maison en étage à côté des maisons basses, d'abord, ça viole l'intimité des voisins et ce n'est pas tellement beau à voir. Et par rapport à tout ça, donc, on suppose que les gens qui construisent, ce sont des charlatans ou des gens qui connaissent pas les normes des constructions.
Bon, en amont, il y a les inspecteurs de l'urbanisme qui sont appelés à être sur terrain pour vérifier si tout le monde a un permis de construire. Il y a une démarche à suivre lorsqu'on s'engage à construire. Il y a des documents administratifs qu'il faudra avoir, entre autres l'autorisation de bâtir. Cette autorisation de bâtir, là, c'est pas seulement un document qui vous donne l'aval de construire. C'est-à-dire que derrière l'autorisation, on vient voir si la parcelle à construire, à quelle superficie, si les plans à mettre dans cette parcelle-là, à quelle superficie en termes de mètres carrés, est-ce que rapport entre bâtisse et espace vide s'est respecté, est-ce que rapport entre altitude et voisinage s'est respecté. C'est autour de tout ça qu'on établit les permis de construire ou l'autorisation de bâtir. Donc on doit être derrière pour suivre. Mais si l'État ne l'a pas fait et que l'architecte qui est le leitmotiv, qui est le pionnier de toute construction, ne s'est pas prodigué des conseils à son client pour lui faire voir que non, ici on ne peut pas commencer, ici c'est contre la loi, ici nous allons gêner l'environnement, ici nous allons faire ceci, cela, ne l'a pas fait vis-à-vis de son partenaire qui est le client, donc il y a quelque part là, ce que j'ai appelé plus loin, la responsabilité morale. On ne vous a pas, on ne va pas vous en faire un problème pénal. Mais plus tard, lorsqu'il y aura des conséquences, lorsque les voisins vont toujours dire que non, voilà, chaque fois qu'il y a des gens là, dans la chambre, ils lorgnent ceux qui sont dans les sanitaires en voisinant, c'est un viol aussi, si vous ne le savez pas. Et qui est à la base de cette responsabilité? Si, par exemple, il y a un viol arrivé à se commettre parce qu'il y avait un monsieur qui était en altitude, dans une maison en étage, à travers la fenêtre, il a lorgné une dame qui est dans la douche en plein air, et qu'au fait, il a poussé ses intentions plus loin, il est arrivé au viol. Donc, il ne faut pas aller plus loin, il faut revenir à l'architecte.
Oui.
Parce qu'il a une responsabilité morale. Est-ce que dans cet environnement-là, c'était conseillé de construire comme ça? Est-ce que les limites entre les voisinages étaient-elles plutôt respectées? Donc, vous voyez en quoi il a une responsabilité, au fait, morale. Mais les clients aussi doivent savoir être à l'écoute de l'architecte, parce qu'il est là pour vous aider, pour que vous puissiez vivre dans la quiétude. Vous savez, la construction, c'est aussi un héritage. Vous pouvez passer. Tout à l'heure, là, j'ai dit qu'il y a des constructions qui prennent 100 ans lorsque c'est bien fait. 100 ans, vous n'avez pas cette vie-là. Vous allez léguer la maison aux enfants. Les enfants, peut-être à leur tour, vont léguer aux petits-enfants. Donc, c'est toute une succession d'héritage. Qu'est-ce que vous allez donc laisser aller à l'humanité comme héritage? Des conflits perpétuels? Point d'interrogation. Donc, les clients aussi doivent être à l'écoute de l'architecte lorsqu'il estime que non, ses conseils sont valables pour lui donner un environnement stable et où il y a la quiétude.
Bien, Deschon Gandou, architecte, merci d'avoir répondu à notre invitation et bon début de semaine.
Merci beaucoup, je vous dis à vous autant.